Alors, est-ce que nous aurions maintenant une période de questions? Donc, peut-être le mieux, c'est de fonctionner avec un micro. Alors, je remercie nos intervenants de ce matin et je vous remercie aussi de votre présence, mais je voudrais qu'on passe la parole à notre public et à partir de ce micro, peut-être qu'on pourrait déplacer. Oui, Isabelle? Ah, ben, c'est-à-dire si les gens veulent aller à ce micro, à vous indiquer à qui vous posez votre question ou si elle est globale. Non. Est-ce qu'il y aurait une première question? C'est une matière extrêmement éclatée.
C'est très surréaliste.
Oui, c'est très surréaliste. Alors, donc, une première question.
En fait, ce n'est pas une question. C'était pour aussi, peut-être, Claude, souligner que peut-être les gens débattants ce matin, en tout cas intervenants, avaient des questions les uns pour les autres. Je me disais que peut-être on serait curieux aussi de voir.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr.
Donc, des questions internes.
Oui, mais moi, je me lançais. J'aurais aimé voir Annie ici pour débattre, parce qu'il y a un livre important qu'elle a écrit en 90-91 qui s'intitule Qui vive et qui a comme sous-titre Considération actuelle sur l'inactualité du surréalisme. J'étais frappé de voir à quel point il y avait. C'est très difficile de parler du surréalisme que je dirais, comme si on parlait, je dirais, d'une entité. C'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, notamment à travers l'œuvre de Jacquemin. Et c'est tous ceux qui ont discuté ce matin, qui ont présenté ce matin, ça m'apparaît évident. C'est-à-dire qu'évident, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas un bloc solide. Et même chez Breton, quand on regarde les textes de 1923, 24, 25, et qu'on compare aux textes pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout les textes d'après-guerre jusqu'à sa mort, on constate à quel point il y a une pensée là qui est une pensée extrêmement mouvante. Il y a quelque chose que je voudrais rappeler, et là je m'adresserai plutôt à Philippe Eyck. Il y a dans les extraits que vous avez lus de Breton, effectivement, on peut s'interroger très fortement sur la jeunesse de ces textes. Ok, très bien. Est-ce que le non-sens que révèlent ces textes-là n'était pas une réponse au non-sens de ce qu'ils venaient de vivre pendant la Première Guerre mondiale? C'était le non-sens absolu. Et donc, d'opposer des choses comme il l'a posé, c'était d'une certaine manière vouloir surajouter à ce qu'il avait été, mais en montrant l'absurdité de cela. Je fais cette remarque-là pour venir à ceci. Ce qui m'a frappé dans l'œuvre de Breton, toujours, je ne l'ai pas fréquenté énormément, mais ce qui m'a toujours frappé dans les principaux textes de Breton, c'est qu'il y a toujours une dimension morale, une dimension éthique qui était fondamentale. Ça, c'était fondamental et ça a toujours été tenu et maintenu. Et quand je regarde l'attitude de Danny Lebrun, que j'ai eu l'occasion de publier à travers notamment le texte Perspective dépravée, il y a les discussions nombreuses que j'ai eues avec elle et avec son ami Radovan Ivcic, j'ai été frappé de voir à quel point cette morale, ou du moins il y avait une morale qui n'est pas, je dirais, la morale traditionnelle, ça n'a rien à voir. Disons, une éthique, une déontologie, une façon de se comporter, une façon de penser, de se comporter dans le monde, dans la société, face à la politique, face à la création littéraire et artistique, où effectivement, il y a des choses qui sont défendues, puis il y a des choses qui ne sont pas défendues, qui sont dénoncées pour ce qu'elles sont. Et voilà, je dirais, cette dimension morale-là, chez Breton, et dans le surréalisme, n'a pas été nettement relevée jusqu'à maintenant. Je fais cette remarque-là. Parce que dans le surréalisme belge, chez Nouget, chez Goumans et chez Lecomte, mais on pourrait prendre également chez Skutner, et on pourrait continuer à travers Cobra, mais davantage chez Fantômas, et en particulier dans la personnalité de Jacquemin, il y a une éthique, une manière d'être dans le monde qui est absolument irréprochable, si je puis dire, si on peut utiliser ce mot. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, ce refus cette révolte, elle est portée par cette morale. Je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental. Je ne vais pas plus loin.
Première remarque, c'est sûr que les Européens, vous avez vécu la première, en tout cas les générations de Breton, la Première Guerre mondiale. Alors, quand on parle de non-sens absolu, moi, c'est bien dommage, mais absolu, non. C'est pas un non-sens absolu. On sait comment se préparent les guerres, pourquoi, et ainsi de suite. Ça se comprend. C'est un phénomène humain qui dure depuis des siècles. À moi, c'est cette façon de saupoudrer de l'absolu un peu partout. Rien à faire de ça. Deuxième chose, j'aime mieux la morale de Jacquemin, de Scutner que de Breton. Je ne pense pas qu'il y ait cette éloquence qui est presque partout dans Breton. C'est tellement fatigant. En tout cas, c'est fatigant pour moi à 60 ans. À 20 ans, j'adorais ça. Mais à 60, c'est imbuvable. Mais quand je lis Jacquemin, quand je lis Scutner, mon Dieu, quelle santé. C'est tout ce que j'ai à répondre.
Oui, j'ai utilisé le mot absolu que je devrais retirer. Il y avait la Première Guerre mondiale. Est-ce que tout ce qu'elle a représenté et engendré, il y avait un non-sens là qui a été vécu, si on peut dire, dans la chair de cette génération-là. Et c'était quelque chose qui ne pouvait que susciter un mouvement de révolte, de refus et un engagement, entre guillemets, parce que le mot engagement dans le surréalisme, dans les courants surréalistes, n'a pas eu toujours bonne presse, si on peut dire, parce qu'il y a eu les engagements et engagements, comme on le sait. Et donc, mais ça, cette expérience-là a été absolument décisive, je pense.
Oui, mais on a toujours été contre la guerre. Les femmes, ça fait des siècles qu'elles sont contre la guerre. Pourquoi Breton qui se lève tout d'un coup contre la guerre et est un héros?
Il se lève dans son époque. Mais excusez-moi,
mais ben oui, il se lève dans son époque. Les Américains qui ont tué les Indiens, le peuple arménien qui a été décimé, il y en a dans les siècles et les siècles. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, moi, rien à faire de Breton puis de son non-sens absolu de la guerre. Ça. Quelle tristesse, hein? Moi, je veux dire, ma mère était contre la guerre.
Il y avait une question de Yolande. C'est Jean-François aussi après? Oh, oui.
C'est une remarque pour M. Haeck.
Oui.
Juste un petit rappel historique. La Première Guerre mondiale était effrayante et elle était absolue. Elle était totale. C'est une génération, on l'appelle la génération la Croix de Feu, je pense, des écrivains Céline, Giraudoux, bon, il y en a qui sont morts, celui qui écrit Le Grand Monde. C'est cet instant précis qui a séparé la pensée des années 30 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale entre les fascistes et les communistes. Vous voyez, c'est pour ça que c'était vraiment important. Et surtout, en 1930 jusqu'en 1945, l'antisémitisme qui était absolu, total et tout ce que vous voudrez, amélioratif en France et en Europe. Je pense qu'il faut retenir cette Première Guerre mondiale comme étant une époque marquante. Hein?
Le massacre des Amérindiens, par exemple.
Bon, là, on parle de d'autres choses. Je parle juste de la littérature. En 1930, on était fasciste, Charles Maurras, Action française, où on était communiste. On n'a pas le choix. Il y avait un milieu. Bon, Maxime et moi, on aurait été là-dedans, soit les anarchistes. C'est important. C'est aussi un mouvement qu'on a occulté. Les anarchistes, c'était le mouvement le plus pacifique possible. On leur fait très mauvaise presse aujourd'hui. Mais sinon, il n'y avait rien d'autre. C'était les communistes où les écrivains ont pris chacun leur côté. Et pour comprendre la littérature, comprendre les écrivains, comprendre les idéologies, comprendre leurs œuvres, il faut comprendre ces dates majeur de 14-18. Comprendre la folie de Louis-Ferdinand Céline, parce que bon, c'est un gars qui était amoché aussi à la guerre. Pourquoi il écrit? Peut-être un des plus grands prosateurs du 20e siècle, quatre pamphlets complètement antisémites. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 1914-1918. C'est juste ça que j'avais à dire, juste pour établir des faits. Merci.
Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi Breton invite à tirer dans la foule.
Je pense que c'est parce qu'il faut lire ce qui vient après cette phrase-là pour comprendre ce qu'il veut dire.
Parce que c'est un
cristal noir qui est vrai, peut-être. La phrase qui suit, ce ne sera pas long. C'est que la phrase qui suit ça, c'est « Qui n'a pas un jour rêvé d'en finir avec le système de crétinisation en place? » Donc, Breton n'invite pas à aller tirer dans la foule. Il évoque que tout le monde a rêvé un jour de tirer dans la foule pour en finir avec le système en place. Je veux dire, c'est tellement différent. Puis quand vous dites l'affaire des Amérindiens, Breton a dénoncé le génocide des Amérindiens avant tout le monde. Je veux dire, c'est lui qui a dénoncé les procès de Moscou que Staline faisait en 1936. Puis avant tout le monde, puis vous nous parlez de Gilles Hénon qui a été stalinien avec Paul Éluard pendant toutes les années 40 et 50. C'est-tu pas, comme moi je trouve ça là, odieux.
Il faudrait le lire, Gilles Hénon.
Ah non, mais moi je trouve ça complètement odieux. Désolé.
Non, ça va. J'allais répondre à Félix que peut-être que c'est un cristal noir qui est frais, comme disait Maxime tantôt dans son intervention, c'est-à-dire que... c'est terrible cette citation que vous avez faite du manifeste, là, c'est vraiment incroyable. Et quand on l'écoute de nos jours, effectivement, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai lu quand j'étais très jeune, et ça prend toute une autre dimension. Alors, j'ai retenu de votre intervention tantôt que Jacquemin disait que c'était bien de. Il commençait par la fin. Hein, et moi, je me suis rendu compte que j'ai comme fait des liens entre les différents participants, mais ma question n'est pas claire encore. J'espère que je vais la trouver d'ici la fin de mon intervention. Alors, j'ai remarqué que la notion de contretemps et de décalage revenait beaucoup. C'est parti comme ça avec l'intervention de Karim Larose ce matin, le contretemps automatiste. Et ensuite, M. Philippec nous a montré... le décalage entre la pensée de Breton et celle d'Hénault. Et je pense qu'effectivement, il y avait un décalage assez important qu'on pouvait percevoir dans le jeu intéressant de citations que vous avez mis en rapport les unes avec les autres. Et j'ai été très frappée aussi par cette histoire de André Breton, ce que vous avez appelé le cyclone Breton. C'est en 1947, je pense, qu'il arrive à... 45 à Port-au-Prince, et le premier décalage dont on parlait, c'était le décalage entre l'automatisme d'ici, le surréalisme ici, qui va devenir, qui va apparaître, en fait, au moment où, en France, on est dans la poésie de la résistance et on est dans la Deuxième Guerre mondiale, alors que le surréalisme est apparu, bien sûr, entre les deux guerres. Et il y a ce premier décalage temporel dans lequel on va toujours se retrouver, peut-être aussi parce qu'on fait partie de la France excentrée, hein, comme vous le signifiez. Alors, je ne sais pas, ma question est le fait que c'est la question de l'héritage aussi. Je pense que visiblement, dans le texte de Maxime Catellier, on voit la remise en question, le retour à cette dimension de révolution et de révolte qui était vraiment au cœur du surréalisme, je pense, et que nos automatistes ici, dans le Refus global, ont repris de façon... très lumineuse, avec place à l'amour, place à la magie, place au mystère objectif et le refus de se taire. Hein. Vous avez repris, Maxime, cette formule, qu'est-ce que c'était, où on parlait de...
Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir.
C'est ça, je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir, et je trouve que peut-être que la question de l'héritage pourrait s'ancrer à cette dimension-là, qui est un modèle pragmatique, en fait, hein, une suggestion pragmatique. Alors voilà, je n'ai toujours pas trouvé ma question, mais je vous lance ces remarques. Merci.
Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces...
Juste un mot.
Oui, allez.
Le
surréalisme, s'il y avait eu une définition qui se tient, jusque dans les surréalistes contemporains, du moins... chez Annie Lebrun, si on peut dire qu'elle se réclame toujours de cela, et elle se réclame de cela, mais avec toutes les réserves qu'il faudrait placer, je pense qu'il faut penser le surréalisme sous la formule, je dirais, ça a voulu être, ça a été une révolution sensible. C'était ça, l'enjeu. C'est dans ce sens, je dirais, que la phrase que tu as donnée tout à l'heure, je dirais, travaille, si on peut dire. C'était une révolution sensible. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça touche non pas seulement à la réflexion au sens fort du terme, avec toutes les implications que ça a, et avec toutes les implications que ça a eues à travers, si on remonte un petit peu, de la pensée hegélienne et marxiste à venir jusqu'aux grandes idéologies du XXe siècle, il est très clair que là, il y a quelque chose qui s'est joué, qui a voulu jouer contre des systèmes politico-idéologiques. Ça n'a pas empêché le surréalisme, ça il faut le rappeler aussi, c'est ce que je voulais le dire, mais ça n'a pas empêché le surréalisme, et Breton et pour ne pas parler d'Aragon et de d'autres, et pour ne pas parler des Luards, qui ont fait partie, qui étaient au cœur, je dirais, du surréalisme. Ça n'a pas été le cas de Charles, c'était plus compliqué avec Charles, et beaucoup d'autres. Ce que je voulais dire, c'est que Breton, ils ont adhéré à une pensée communiste pendant une certaine période. Et c'est là, je dirais, que le XXe siècle est un siècle, j'allais dire, quasiment crapuleux, à tout point de vue. C'est absolument effrayant de quelle manière les alignements devaient se faire et de quelle manière, si on n'était pas aligné, on était définitivement condamné. Et c'est dans ce sens, je dirais, qu'effectivement, il faut prendre un recul, puis si nécessaire, retrouver, je dirais, dans ce que le surréalisme a porté, comme dans ce que les grands auteurs du 19e, que ce soit Rimbaud, pour ne parler que des auteurs francophones, que ce soit Rimbaud, Lautréamont, Baudelaire ou encore Nerval, puis pour remonter au 18e, fin 18e, début 19e, au romantisme allemand, ben, je dirais, il y a là, je dirais, non pas des filiations à rechercher ou quoi que ce soit, mais il est très clair que la connaissance de ça est indispensable pour voir de quelle manière s'est dessinée la littérature, la création, je dirais, au sens large du terme, au cours des 50 dernières années. C'est ce qui m'intéressait. Et l'œuvre de Jacquemin, effectivement, elle a de ce point de vue une capacité décapante absolument incroyable. Bien.
Oui, Karine?
Oui, je ne veux pas faire une défense de Gileno à tout prix, mais je ne vois pas du tout en quoi on peut le qualifier de stalinien. Absolument pas. Hainaut a été membre du Parti communiste en 1947, il a quitté le Parti communiste en 1948. Dans les années 50, ensuite, il est en exil à Sudbury pendant 4 ou 5 ans. Il paie le prix fort pour être à la gauche sur le plan politique, un prix qu'aucun autre écrivain québécois, à ma connaissance, a payé de cette façon-là, dans ces années-là, mais et par la suite. Il est du côté des syndicats. Dans les années 70, il se rapproche du marxisme-léninisme sur le plan idéologique, sans être membre d'aucun parti, mais de façon très critique. Et évidemment, je t'invite à lire ses textes en prose, intervention critique, ses textes politiques. C'est quelqu'un qui, enfin, pour donner... Un seul exemple, en 1950, à la suite de l'appel de Stockholm pour le bannissement des armes nucléaires, c'est quelqu'un qui s'engage dans le mouvement mondial qui a lieu à ce moment-là pour la paix, entre autres dans les cahiers de la place publique. Il y a des éditoriaux, justement, les cahiers de la place publique et Jean-Jules Richard contre le genre de prise de position qu'on trouvait à Cité libre. Alors, je vois absolument pas comment on peut le qualifier de stalinien. Il y a absolument rien de cet ordre-là dans sa pensée et dans ses textes. Rien.
Moi, je parlais surtout de son d'adhérer au Parti communiste en 1947. C'est nécessairement d'adhérer au parti de Staline. C'est ça que je voulais dire. Je parlais surtout de Paul Éluard, en fait. Moins de Gileno. Mais Gileno a quand même célébré même Mao, je pense, au début des années 70, ce qui n'était pas nécessairement très éclairé comme décision.
Oui, absolument. C'est le poète Mao qui le. Je dis pas que justement, c'est pas une, je fais pas une défense.
C'était paru chez Parti Pris à l'époque aux éditions Parti Pris.
Pardon.
Avait publié la poésie de Mao.
Non, absolument pas là. Non, on va pas. Quittons un peu l'esprit de procès, là. Je veux dire, genre... Non, mais je dis qu'il est il a été touché, entre autres, par cet aspect-là de la réflexion de Mao. Mais c'est aussi les textes politiques, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre ça dans l'ombre. Je dis que c'est un ensemble, et c'est ce qu'il retient du parcours. Je ne fais absolument pas une glorification de ces prises de position-là, mais il faut relire les textes pour voir ce qu'il en fait.
Oui, c'était très, très appliqué dans notre contexte. De toute façon, ce n'était pas le regard braqué sur la Russie. Quand tu prends position sur la grève à Radio-Canada, dans les textes, bon, alors là, c'est vrai, mon cher Maxime, j'ai aimé ta fougue.
Je respecte beaucoup, l'activisme ou en tout cas tout le côté de Gileno qui va vers le syndical et tout ça. C'est juste que je trouve que politiquement, en général, il n'est pas très éclairé. Je trouve qu'il aurait pu quand même prendre connaissance bien avant des écrits de Guy Debord puis de l'international situationniste. Pour moi, c'est un peu essentiel, mais bon, en même temps, il n'était peut-être pas non plus... je ne sais pas. C'est, je ne sais pas où il se trouvait par rapport à ça.
Mais ça va être... Ça va être la position que Pierre parlait de l'obligation de choisir qui est comme Dieu.
Oui, oui. Mais c'est surtout pour moi que, je veux dire, adhérer au Parti communiste en 1927, ça passe encore. Mais 20 ans plus tard, je pense qu'il y a quand même, je veux dire...
Il y aurait beaucoup de réponses à faire aux remarques que vous venez de faire. Malheureusement...
Je vous remercie d'avoir assisté à la première partie de notre journée d'études autour des héritages du surréalisme. Alors, de retour à 14h, je remercie tous nos conférenciers. Merci.